Bonjour Robert Schiller.
Bonjour.
Vous êtes prix Nobel d'économie 2013, vous êtes professeur d'économie à Yale depuis 1982. Vous avez donc reçu cette distinction de l'Académie royale suédoise des sciences, notamment pour avoir prévu le cours général des prix et pour avoir beaucoup travaillé sur les bulles spéculatives, sur les bulles également relatives au prix de l'immobilier. Aujourd'hui, pensez-vous que l'économie mondiale soit également en présence de bulles, Robert Schiller?
Well, there's always a bubble somewhere.
Il y a toujours une bulle quelque part. Hein.
It's particularly prominent in some places in
et
real estate.
Principalement dans certains endroits dans le domaine de l'immobilier.
In the United States, it's the
aux États-Unis,
stock market.
C'est dans le marché des fonds, dans le marché
But
monétaire.
Other aspects are not, the
Mais
European stock market is
vous
not
savez,
high.
Les marchés boursiers européens ne sont pas
Bond
très hauts.
It's complicated.
C'est compliqué.
Yes,
le marché obligataire, oui. Mais il y a des bulles.
Le monde est très inquiet des conséquences possibles d'une bulle sur le marché immobilier américain parce qu'on se souvient que la dernière bulle en 2008, elle nous a coûté cher à tous. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Vous y revenez dans votre dernier livre « Marché de dupes ». Pourquoi une bulle immobilière américaine est-elle devenue un problème mondial?
Usually bubbles are a mystery.
They seem D'ordinaire, to come out les bulles sont des mystères. Elles semblent venir de nulle part. C'est des mystères. Pourquoi c'est un mystère? Parce que c'est un mécanisme de réaction. C'est des gens qui réagissent à d'autres gens. Et c'est toute une suite de narratifs, de récits qui sont construits, qui font partie de cette rétroaction. Vous savez, les économistes ne sont pas très à l'aise pour comprendre ça.
À l'origine de cette bulle américaine, il y avait l'idée que l'on pouvait vendre des maisons à des ménages qui, en réalité, n'avaient pas les moyens de se les offrir. Comment passer de cette situation où des gens sont finalement surendettés à une situation où c'est l'économie mondiale qui tremble?
Well, there were some serious mistakes made.
Il y a eu des erreurs très graves qui ont été faites dans cette bulle qui a précédé la crise. Il y avait le sentiment que les prix de l'immobilier allaient grimper sans cesse. Personne ne pensait que les prix de l'immobilier pouvaient baisser, parce que personne n'avait regardé la vérité des prix.
Il y avait aussi
une vision politiquement correcte qu'il fallait donner de l'argent prêté aux pauvres. En fait, les gens étaient en train de réaliser les attentes de l'histoire.
Politiquement correct, c'est une façon de parler, Robert Schiller, parce que également, il y a eu toute une série d'escrocs qui ont transformé des crédits qui étaient des crédits pourris en crédits apparemment présentables.
There was definitely a complacency about lending standards.
Il y avait beaucoup de complaisance dans la façon d'accorder des prêts.
I think that what happened, what we talk about
ce qui s'est passé,
book,
j'en parle, nous en parlons dans le livre, Marché de dupes.
Akerlof.
À un moment,
it's a game.
Les gens pensent que c'est un jeu. Alors, on va jouer pour gagner. Mais c'est ce que je dois faire, non? Jouer pour gagner.
Off, but, mais, hey, I'm not going to commit a crime.
C'est pas un délit.
And it's okay. This is the modern
way. Ça va, c'est bon. C'est la façon moderne de jouer.
Les choses ont-elles changé?
Après la crise,
elles
ont un peu changé, mais vous savez, la nature humaine n'a pas changé. Donc le sous-titre de notre livre, c'est « L'économie du mensonge et de la manipulation ». Ben, c'est toute la civilisation qui est comme ça. Ça a peut-être changé un peu avec l'Internet, les règles du jeu sont peut-être un peu différentes.
Est-ce que ça signifie que le monde est toujours aussi menacé par une bulle immobilière américaine, puisque The Economist titrait ce mois de septembre sur une bulle en matière de prix de l'immobilier aux États-Unis, les mêmes causes peuvent-elles produire les mêmes effets?
Vous
savez, l'économiste avait fait un gros titre sur le précédent crash, et ils avaient raison. Et ils reviennent avec le même titre. Donc c'est vraiment, c'est une inquiétude. Vous savez que les bulles de l'immobilier datent de la Rome antique, hein, et ça ne devient que de plus en plus fort.
Il n'y a pas que l'immobilier qui coûte cher aux États-Unis, il y a aussi les campagnes électorales qui réclament beaucoup, beaucoup d'argent, et c'est la raison pour laquelle l'un des candidats se vante d'en avoir beaucoup.
All my life, I made money. I made money. I've always been good at making money. I think I have great imagination, but I made money. And all my life, I did well. And my father always said, everything he touches turns to gold. My whole life, I've been greedy, greedy, greedy. I've grabbed all the money I could get. I'm so greedy. But now I want to be greedy for the United States. I want to grab all that money. I'm going to be greedy for the United States.
La voix de Donald Trump expliquant donc qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a réussi à faire beaucoup d'argent et que ce qu'il a fait en quelque sorte pour sa fortune personnelle, il va le faire pour l'Amérique. Dans Marché de dupes, Robert Schiller, et tout au long de vos travaux, vous expliquez qu'il y a un véritable souci dans la démocratie américaine parce que pour faire campagne, il faut réunir des millions de dollars et ça, dites-vous, ça pose un vrai problème.
I think Donald Trump is amazing. I know that clip you just
Donald Trump est étonnant. Enfin, l'extrait que vous avez passé, c'est fantastique. Comment est-ce qu'il peut s'en tirer en étant tellement arrogant? Ça montre quelque chose sur la nature humaine.
Ultimately, people
et finalement,
still respect wealth
and les gens respectent toujours la fortune, la richesse.
I think he should be in our book. We didn't.
Il devrait être dans mon bouquin. Quand on a écrit ce livre, il n'y était pas encore. Mais c'est une vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition sur la façon de pêcher. Vous savez, dans la façon dont nous on entend le mot pêcher, c'est-à-dire manipuler les gens.
Lorsqu'il s'agit de financer une campagne électorale, on a deux solutions, ou bien utiliser donc des systèmes de levée de fonds, ou bien obliger la démocratie à financer le système. C'est ce qu'a proposé l'un de vos confrères. Vous y êtes favorable. Expliquez-nous en quoi ce système pourrait consister, Robert Schiller.
Well, Trump has made a great innovation.
Mais Trump a fait une grande innovation.
One publicity stunt after another.
Il crée des pubs, donc il a une couverture comme s'il avait payé des millions, des milliards de dollars en publicité. Il n'a pas besoin de pub. Il dit quelque chose de complètement dément, ça énerve les gens et tout le monde en parle.
Hein?
Donc peu importe qu'il ait raison ou pas dans ce qu'il dit.
Et le système proposé par l'un de vos confrères qui consisterait à donner à chaque Américain $50 pour permettre de financer les campagnes électorales, cela supposerait, si ma mémoire est bonne, $3 milliards de coûts, mais cela permettrait en quelque sorte de restituer le système démocratique aux Américains, selon vous, Robert Schiller.
C'est quelque chose qu'Akerlof et moi-même, nous sommes en faveur de cela. Ça ne coûterait pas tellement, finalement, d'améliorer l'état de nos campagnes électorales.
C'est un système qui est préconisé, c'est un système qui, en quelque sorte, pourrait permettre de mettre un terme à tout ce système de lobbying et ce système de consultants qui aujourd'hui est au cœur du système politique américain, mais pas évidemment à la cupidité qui, elle, demeure.
C'est la cupidité qui pousse mon barman à s'acheter 3 maisons qui sont au-dessus de ses moyens, sans mise de fonds. C'est aussi la cupidité qui fait que vos parents réhypothèquent leur maison de $200,000 pour 250. Et qu'ensuite ils prennent ce 50 000 d'extra, ils dépensent au mail. Alors ils se paient une téléplasma, des téléphones, des ordis, un VUS, et pourquoi pas une seconde maison? C'est connu de tout un chacun. C'est vrai, on sait tous que le prix des maisons en Amérique ne cesse de monter. Et ils ont des jolis termes pour les billions de dollars de crédit. CMO, CDO, SIV, PCA... Écoutez, je crois sincèrement qu'à peine 75 personnes au monde savent ce que c'est. La mère de tous les vices, c'est la spéculation, le levier des dettes. En plus clair, c'est emprunter à l'excès. Et je déteste dire ceci, mais c'est le modèle qui mène droit à la faillite. Ça ne peut fonctionner. C'est systémique, malade et c'est global.
Un extrait de Wall Street, L'argent ne dort jamais, le film d'Oliver Stone. Robert Schiller, dans votre livre Marché de dupes, vous expliquez que l'économie capitaliste tout entière repose sur la manipulation, sur le fait de nous inciter à acheter plus que nos besoins et qu'il y a là, en quelque sorte, un marché de dupes généralisé. Expliquez-nous pourquoi.
Ce n'est pas nouveau, ça, ces phénomènes. Le mot « bulle », ça revient à 1720 en France. Et c'est la faillite de Lass, de John Law, en France.
Et
je crois que ça s'accélère avec la communication. C'est nouveau, c'est différent aujourd'hui, parce qu'on communique tellement librement et grâce à des médias qui ne sont pas crédibles. C'est des pages de Facebook, c'est du blabla, c'est ces idées complètement démentes qui circulent très très librement.
Et parmi ces idées démentes, il y a aussi tout simplement l'incapacité des êtres humains à raisonner de manière rationnelle dans une économie qui engendre l'irrationalité, selon vous.
Je crois que les gens ne connaissent pas les faits. Les véritables faits sur l'immobilier, les gens ne les connaissent pas, les véritables faits. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier n'ont pas tellement augmenté, en fait. Vous savez, l'immobilier à Paris, c'est très cher. Mais c'est quoi? C'est une augmentation de 1% par an pendant 300 ans. Mais ça ne fait que 1% par an, finalement.
Et
les gens sont très enthousiasmés par ces accroissements des prix, mais ça peut descendre une année sur l'autre.
Mais la conséquence de tout cela, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, on a la concomitance de ménages qui sont très largement surendetté et également d'inégalités très fortes entre les êtres.
L'inégalité, c'est le problème de l'époque. On n'en parle pas suffisamment. Et ça risque de devenir pire au cours de ce siècle. On devrait parler et faire des plans au sujet de cette histoire. Beaucoup de gens se rendent compte, je pense au livre de Thomas Piketty, qui est devenu un best-seller mondial, parce que les gens sont inquiets personnellement. Comment est-ce que moi, ça va m'affecter moi-même et ma famille, cette inégalité?
Qu'est-ce que l'on pourrait faire aux États-Unis pour lutter contre les inégalités? On a l'impression que c'est un thème qui est complètement absent de la campagne aujourd'hui.
Vous savez, les politiciens ne parlent que de choses qu'ils peuvent résoudre. Donald Trump a transformé les craintes d'inégalité en craintes sur l'immigration mexicaine. C'est une petite source de montée de l'inégalité. Mais il a dit une chose qui semble plausible, il va construire un mur et va arrêter l'immigration mexicaine. Il exagère, bien entendu. Il ne veut pas parler de l'inégalité en tant que telle. Il veut parler de quelque chose qu'il pourrait résoudre. Et il veut faire croire qu'il pourrait arrêter l'immigration mexicaine, par exemple.
Est-ce que, d'après vous, l'immigration mexicaine est un thème qui mérite d'être abordé dans une campagne électorale, Robert Shiller?
J'ai de la famille qui croit en Donald Trump. Je leur parle. Ils pensent que c'est le problème du jour. Ils disent que le pays perd son identité et qu'on devient le Mexique. Et ils ne veulent pas être mexicains. Et c'est pour ça que Trump a un tel succès. Le problème, c'est que les États-Unis deviennent de plus en plus diversifiés et les gens n'aiment pas ça. C'est politiquement incorrect de le dire. Et voilà quelqu'un qui est véritablement politiquement incorrect et qui en parle.
Et dans le même temps, votre livre, celui que vous venez de publier avec un autre prix Nobel d'économie, Georges Akerlof, consiste à militer en faveur d'un retour de l'État, d'un retour du rôle régulateur et protecteur de l'État. Expliquez-nous pourquoi vous pensez que c'est cela dont l'Amérique a besoin aujourd'hui.
The book is not just about America.
Mais vous savez, le livre ne parle pas que de l'Amérique. C'est la façon dont les marchés libres fonctionnent autant que faire se peut. Le thème, c'est que la régulation, on l'a toujours eue d'une manière ou d'une autre. Et une partie de l'amélioration au cours du siècle dernier, c'était l'amélioration des règlements et des régulations. C'est pas quelque chose, une notion abstraite, le gouvernement qui s'en occupe. Non, c'est des gens qui sont des héros et qui véritablement le font parce qu'ils y croient. Ils peuvent être membres du gouvernement ou pas.
Mais est-ce que l'Amérique n'est pas en train de vivre encore sous l'axiome de Ronald Reagan, le gouvernement n'est pas la solution, c'est le problème ?
Yeah, Ronald Reagan was a sweeter version of Donald Trump.
C'était une version édulcorée, Reagan, de Donald Trump. Il était gentil.
He's famous for saying that.
Pensez vraiment qu'il était gentil ?
You think it was kind, it was nice, Ronald Reagan ?
Wait, he just had a different. If you watch Trump, he's angry.
Si vous regardez
man,
Trump, c'est un homme en colère.
And Ronald Reagan,
et Reagan, il était souriant, il racontait des blagues, et il disait que tout va aller bien.
Il disait aussi qu'il fallait moins d'État. Et ça, c'est un discours qui aujourd'hui encore fait mouche aux États-Unis.
It's really interesting what. Opposite movements occurred around 1980 in France.
C'est intéressant de voir les mouvements de sens opposés qui se sont produits en France et aux États-Unis en 1980. On a eu Reagan, vous avez eu François Mitterrand. Regardez comment on peut aller dans des directions tellement opposées. Pour moi, ça a quelque chose à voir avec la capacité de manipulation de certaines personnes et de raconter des histoires qui sont différentes dans des pays différents.
Mais justement, lorsqu'on lit votre livre, Robert Schiller, on se demande quelle portion des Américains pensent comme vous. Vous êtes finalement un social-démocrate européen. Je ne veux pas vous insulter, mais c'est cela qu'on retient de votre livre. Est-ce qu'il y a véritablement beaucoup d'Américains qui ont la même conception de l'économie que vous ?
La chose la plus étrange sur la nature humaine, c'est qu'elle est géographique. Il y a une étude récente par le sociologue de Harvard, Kaufman.
Comparer
le Vermont, vous savez, c'est un de nos États, avec le New Hampshire. Le Vermont, vous savez, Bernie Sanders, vous avez entendu parler de Bernie Sanders ? Ils avaient un socialiste, là, dans le Vermont. Et pourquoi dans le Vermont ? Parce qu'il y a 50 ans, vous savez, c'est une histoire en cours dans le Vermont, et elle attire un certain nombre de gens.
Marché de dupes, c'est le livre que vous publiez avec Georges Akerlof, Robert Schiller, aux éditions Odile Jacob.